RMC.
After Saint-Étienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de Luborir, Moraf Chic et David Elbuic, bienvenue dans le podcast After Saint-Étienne. Comme toutes les semaines, 15 minutes de débat consacré à l'actu des Verts avec aujourd'hui Jonathan McCarty. Jonathan, bonjour.
Salut les amis.
Et avec Joss Randall, de retour parmi nous. Joss Randall du site peuple-vert.fr, bien sûr. Joss, bonjour.
Bonjour Gilbert et bonjour Jonathan, maison du whisky McCarty. Jonathan, tu pourras y aller plein pot sur ta blague préférée sur Godos parce que celle-ci, je l'ai depuis le début.
Ah, ça fait plaisir. T'es un des seuls.
Ah bah, bon. Il m'arrive de lire quelques auteurs irlandais quand j'ai rien d'autre à faire.
Merci.
Alors, évidemment, pas d'évaluation dans l'after cette semaine, hein, trêve internationale oblige, mais des débats. Des débats concernant Saint-Etienne. Premier débat, les supporters doivent-ils lâcher la pression sur les présidents? Parce que vous le savez, c'est plus que chaud entre les tribunes et d'un côté Romain Cayazo de l'autre, sur fond de banderoles interdites, de bras de fer permanents depuis des mois et des mois. Mais là, ça s'accentue. On va également parler de Claude Puel, bien sûr. Va-t-il tout changer après son derby gagné il y a quelques jours de cela? Et puis avec Claude Puel, désormais, quelle est votre attaque idéale? Casery, Berich, qu'est-ce qu'on fait? On va en débattre tout de suite dans le podcast After Saint-Étienne. Oui, je rappelle ce qui s'est passé lors du derby. Dans les deux tribunes, des banderoles ont été interdites. Banderoles qui visaient directement les présidents, Cayazo et Romeyer. Tout cela a tendu encore plus les relations entre supporters et direction. Il y a également, hein, je passe les mots doux à la sortie du stade et autres... prise de parole des uns et des autres. Mais enfin, les supporters doivent-ils continuer cette pression sur les présidents ou bien faut-il un petit peu les lâcher pour les laisser un peu bosser et avancer? Quel est votre avis? Bon, on en parle régulièrement dans l'after, encore il y a quelques heures, et à chaque fois on a des retours assez partagés entre d'un côté des ultras très déterminés et des supporters peut-être un peu moins impliqués qui eux se disent bon, laissons-les bosser. Quel est votre avis? Jonathan d'abord.
Bah, le problème, c'est que c'est vrai que ça crée un climat qui est délétère autour de l'institution stéphanoise. Mais le problème, c'est que les deux présidents, cette direction bicéphale, a accumulé les erreurs, a accumulé les approximations, a accumulé des choses qui ont mis en danger le club malgré leur amour, qui est certes, je pense, sincère pour les Saint-Étienne. Mais maintenant, ce ras-le-bol des supporters, je le comprends, parce qu'il est grand temps pour que Saint-Etienne passe enfin un cap important qui est de pouvoir jouer le top 3 chaque saison. Je pense qu'il faut clarifier ce qui est à la tête de l'institution stéphanoise. Et je pense qu'au bout d'un moment, cette situation, elle a duré depuis bien trop longtemps et c'est plus tenable maintenant. Je pense que les deux présidents, il y en a un des deux qui doit sauter, qui doit se mettre en retrait. Je pense qu'il faut faire quelque chose parce que, d'une part, pour le processus de développement de l'équipe qui est de trouver un nouvel actionnariat, de changer un petit peu de directoire, c'est pas possible de garder ces deux pôles de décision. Et d'autre part, pour le climat conjoncturel de l'équipe, c'est important de retrouver un peu de sérénité.
Donc toi, tu te mets du côté des supporters en l'occurrence.
Je les comprends.
Joss, ton point de vue?
Moi, j'ai un côté un peu schizophrène. Enfin, il y a deux cow-boys en moi, un romantique, un pragmatique. Aujourd'hui, j'ai envie de laisser parler le pragmatique. Les supporters ont exprimé un ras-le-bol qu'on comprend tous. Parce que c'est vrai qu'en termes de com, notamment en termes de pilotage, il y a quand même eu pas mal d'épisodes ces dernières années où on ne savait pas du tout où on allait. Ils se sont exprimés. Ils se sont exprimés même de façon assez forte, puisqu'ils ont fait irruption dans une conférence de presse, ils ont mis des banderoles.
Ouais.
Là, à mon sens, il est temps de laisser un peu de temps aussi à ce qui est en train de se mettre en place pour voir ce que ça donne. Et puis, le côté pragmatique, c'est surtout que... Enfin, moi, j'entends beaucoup au stade les présidents d'émission. Je vais reprendre ce qui a déjà été un peu évoqué dans l'after hier. C'est leur club, quoi. Ils sont propriétaires, donc on les débarque pas comme ça. Pour les débarquer, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse une offre, il faudrait que le club soit vendu. Alors moi, je pense qu'il vaut mieux qu'ils travaillent sur ce qui semble être la direction, c'est-à-dire prendre un peu de recul et se repositionner sur leur réel rôle d'actionnaire, en mettant en place des moyens opérationnels au quotidien pour que le club soit mieux structuré que ce qu'il n'est. Et moi, j'ai envie d'y croire, là, avec ce qui se passe, avec Puel, avec Tuilo... Ça sent plutôt bon dans ce sens-là, mais de toute façon, il va falloir un peu de temps. Donc,
tout le monde
s'est exprimé là-dessus.
Joss, il va falloir surtout arrêter de se tirer dans les pattes. On se rappelle l'épisode avec Paquet, notamment, c'est plus possible.
Ouais, bien sûr, mais moi j'ai envie de croire, mon côté très optimiste là pour le coup, mais j'ai envie de croire que le choix, quand on choisit Puel, ou alors ils sont complètement inconscients, mais on sait à qui on s'adresse, c'est un homme qui a quand même une certaine personnalité, qui a une expérience, qui a un parcours. C'est un structurant, Puel. La preuve, c'est qu'il a mis comme condition d'avoir un DG qui va faire le tampon entre les actionnaires et lui pour pouvoir bosser. Enfin, on retrouve une... On
n'a pas inventé attention, la peau. Attention, Puel, tête de bois. Hein. Attention, hein. Rappelez-vous de la façon dont il est parti de Lyon.
De Lyon, oui,
ça
bien
s'est
sûr,
terminé
bien
au
sûr.
Prud'homme.
Même à Leicester.
À Nice, ça s'est fini de façon également très tendue à l'époque avec le duo River-Fournier. Voilà, c'est
un gars aussi.
C'est un gars qui se laisse pas faire, qui a des idées bien arrêtées. Donc,
ouais, mais c'est voilà. Bien ça.
Et il faut que ça soit, il va falloir que ce soit carré.
Aujourd'hui,
hein.
Je pense que c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux en fait, parce que
ça, c'est sûr, oui.
on sent bien, on a bien vu avec l'épisode Paquet que Romeillet, c'est une histoire de je t'aime moi non plus. C'est un Magic fan qui a grandi trop vite l'échelle sociale. Romeillet, il vit par ce club. Donc l'expérience de mise en recul un peu forcée avec Paquet, ça a tenu quelques mois et il a fallu qu'il revienne. Bon, ben là, il va avoir en face de lui non plus un seul directeur général, mais un directeur général plus un coach affirmé. Il va avoir plus de mal à revenir. Et là, par contre, je rejoins complètement les ultras. Il est temps qu'ils prennent du recul, Romeillet, parce que je pense qu'il dévisse là en ce moment.
Il est catastrophique à chaque fois qu'il intervient.
Voilà, au-delà de la problématique qui s'entend entre
les
deux.
Romeillet, au moins, j'ai l'impression qu'il va au charbon, alors que Cayazo... il a tendance quand même plutôt à se planquer.
J'ai l'impression que Romeillet va au charbon, mais il le fait d'une manière assez catastrophique, à l'instar de sa sortie un petit peu allez, à l'emporte-pièce sur Ghislain Printemps. Et puis Cayazo, c'est vrai qu'il est plus en retrait, mais j'ai cru comprendre que lui s'activait pas mal pour ouvrir l'actionnariat stéphanois, qu'il travaillait pas mal dans ce sens-là. Donc à la rigueur, qu'est-ce qui est le mieux ? C'est le mec qui est en retrait et qui fait travailler vraiment, ou c'est celui qu'on voit plus, mais qui voilà, fait plus de mal que de bien par ses prises de parole ?
À partir du moment où on a décidé d'avoir un fonctionnement comme ça à deux, je pense qu'il faut les deux. Mais aujourd'hui, je pense que Roland Romeillet, alors complètement d'accord, c'est un mec qui ne plaint pas ses efforts et qui se mouille pour le club. Mais ça va trop loin et c'est au détriment du développement du club et d'un réel projet sportif. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que depuis deux ans, il y a eu l'énorme baobab gassé qui a caché notre forêt, mais c'est le désert en termes de structure chez nous, en termes de structure, de fonctionnement de club, et donc de possibilité de création d'un projet sportif. Oui. Là au moins, et ça va être l'objet du point 2 après, on a l'idée qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place qui pourrait marcher, voilà, qui pourrait marcher.
Mais justement, comment ça va marcher maintenant ? Claude Puel va-t-il tout changer ? Comment est-ce que vous voyez la suite ? Alors, il a déjà fait des choix importants. Hein. Dans le milieu du foot, on dit des choix forts. Voilà, il a imposé le style Puel directement lors du derby, si on peut parler de style Puel, après quelques heures de boulot seulement. Mais enfin, maintenant, comment est-ce que vous le sentez, Claude Puel, et qu'est-ce que ça va changer ?
Déjà, lors de son premier match, c'est vrai que les choix forts en termes de composition d'équipe, on y a eu le droit. Hein. Il y a eu vraiment des choix très marqués, des choix très forts, notamment en remettant Johnny dans le 11 titulaire. Donc toutes les cartes sont rabattues.
Boudbouz qui a fait un très bon match, il faut le rappeler.
Exactement. Le petit au milieu de terrain, j'oublie son nom, l'ancien Bordelais.
Youssouf,
voilà. Qui a été, je trouve, étincelant, qui est un très bon joueur. Donc voilà, le truc, c'est que Saint-Etienne, pour moi, on en parlait en off
avec
Gilbert.
Et en sortant Cazerie, je le rappelle.
Ouais. Saint-Etienne a, je pense, derrière le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, peut-être à égalité avec Lille, a le meilleur effectif de Ligue 1.
Monaco, peut-être maintenant ?
Oui, Monaco aussi, c'est vrai. Mais tant quantitativement que qualitativement, et notamment dans le secteur offensif, t'es fortement pourvu. Donc là, Claude Puel, il a le matos. Moi, j'attends avec beaucoup d'impatience de voir quels vont être ses choix sur la durée. Si ce n'était pas juste une composition d'équipe dans l'urgence pour affronter le voisin lyonnais dans le derby. Mais en tout cas, non, toutes les cartes sont rebattues et c'est hyper excitant quand tu vois le matos qu'il a à sa disposition.
Joris, t'es d'accord ?
Je suis d'accord. Alors juste, je voudrais revenir sur les choix forts, parce que moi, j'ai une autre analyse. En fait, je pense que c'est juste un super malin, Claude Puel. Parce que il arrive, il a 48 heures pour préparer un derby. Il peut réparer un peu les têtes et c'est tout. On voit la compo et on dit, putain, là, ça y est, on a changé de dimension, le mec, il fait des choix, les machins. Mais il risquait quoi, en fait, Claude Puel ? On était donné perdant sur le papier. Au pire, il fait des choix, alors effectivement, qui sont affirmés. Bon, il a vu ce que tout le monde disait sur Cazerie, hein. Il a vu les matchs,
oui,
il prenait pas un risque énorme en sortant Cazerie.
Enfin, à bout de bout, c'était
il peut lui arriver quoi ? Il perd le match, On va probablement pas dire que c'est de sa faute. On va dire, en plus, au moins, il avait tenté quelque
ah,
chose.
Ah, mais Joss, t'oublies
moi, je crois qu'il
une
est
donnée.
malin, en fait.
T'oublies une donnée à l'équation. Je pense que ce match, pour lui, c'est un quand même, il y avait un petit peu d'enjeu personnel et je pense que c'était hors de question pour lui de perdre face à l'Olympique Lyonnais. On sait que c'est quelqu'un qui a la tête dure, qui est peut-être un petit peu rancunier et je pense qu'il a justement tout fait pour gagner ce match-là. Je pense pas qu'il ait été malin et qu'il s'est dit « vas-y, je tente et si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça passe pas ». Je pense que ça lui tenait vraiment à cœur.
Oui, non, ça ne remet pas en cause le fait que ça lui tenait probablement à cœur. Après, ce que je veux dire, c'est que le risque n'était pas si fort que ça. Après, pour répondre à la question, Puel, moi j'ai déjà dit ce que j'en pensais là-dessus. Le truc qu'il va apporter rapidement, c'est qu'il va faire bosser les mecs. Et il va remettre à plat des positions de statut qui avaient été prises sous Ghislain Printemps et qui pour moi, étaient au détriment du rendement et de la performance
bien
de
l'équipe. Bien sûr, tu as totalement raison.
Alors, il a envoyé des messages là, lors du match. Il a envoyé des messages. Il a dit, bon. En gros, ceux qui n'ont pas le niveau, ils joueront quand ils auront le niveau. Exemple, Kadri sur le banc. Moi, j'hésite pas à faire jouer les jeunes. Exemple, Abi titulaire. Et avec moi, tout le monde jouera. Meilleur exemple, je fais jouer Diony. Pourtant, pour faire jouer Diony, il faut vraiment que tout le monde joue. Donc, il a passé ses messages aussi à travers ça, urbi et torbi, comme dit le pape, c'est-à-dire à l'intérieur du club et à l'extérieur. Et bon, moi, je suis plutôt vachement content de ce qui se passe. Alors après, sa méthode, moi, je la connais pas particulièrement. On verra bien. Moi, je connais sa réputation. C'est un mec qui bosse. Qui va faire bosser les mecs.
Je pense que Kazri, d'ici 2 mois, il sera beaucoup plus fit que ce qu'il n'est à l'heure actuelle. Hein.
Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il a fait travailler les têtes aussi. Il a fait travailler les têtes.
Je rappelle cette information capitale de Timothée Mémon la semaine dernière dans notre podcast à France Athlétienne. Il a vu Kazri torse nu. Il dit, il n'y a pas un pet de graisse. Donc arrête. C'est sa morphologie, le gars. Il est comme ça.
Mais Gilbert,
non, mais les gars, je te parle pas de s'il est sec ou pas sec, on s'en fout, mais je te parle juste du fait que dans la répétition des efforts,
ouais,
et dans les courses,
c'est une question
très compliqué, quoi. Oui, c'est en préparation de fond, c'est de la forme physique, tout simplement. On s'en fiche qu'il soit bodybuildé ou pas.
Gilbert, je suis désolé, mais j'adore Timothée Mémon. J'ai eu l'occasion de lui dire il y a pas longtemps, mais moi j'ai eu la chance de faire le bord pelouse, l'entraînement bord pelouse pendant le derby. On était sur la pelouse avec quelques autres. J'ai vu passer devant moi Kazri. Alors, j'ai pas vu ses abdos, mais il est quand même pas si fit que ça. Il est quand même pas si fit que ça. Mais je suis d'accord avec Jonathan, c'est pas tant le problème de la morphologie, c'est qu'on voit bien que c'est un garçon qui est fatigué, il a pas de coup de rein, il avance pas.
Il a fait la canne aussi, à sa décharge.
Oui, il a fait la canne, oui, il a joué beaucoup de matchs, bon voilà.
Excuse-moi, mais Slimani a fait la canne. Hein.
On est d'accord.
Il marche sur l'eau, le mec.
On est d'accord. On est
donc,
d'accord.
La canne, c'est pas forcément une excuse. Hein.
On est d'accord.
C'est pas une excuse à tout, je suis d'accord. Oui. Mais au-delà de tout ça, ce qui est surtout important, c'est qu'on a un coach qui n'est plus englué dans des choix par défaut, dont on se demandait quand même si c'est bien lui qui les faisait. Et j'ai vu aussi, mais je l'ai vu ça avant même quand Puel était annoncé, mais qu'il n'était pas encore nommé. Je l'ai vu chez un garçon comme Mvila, le match du jeudi là en Coupe d'Europe.
Ouais.
Il a fait plus d'efforts.
Bien sûr.
Et dans le derby, il a fait plus d'efforts.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive avec déjà des relais. La personne de Yuan Cabaye, de Mathieu Debuchy,
hein.
C'est hyper Debuchy. Important.
Il nous reste 2 grosses minutes. Désormais, avec Claude Puel, quelle est votre attaque idéale? Est-ce que c'est fixé dans votre tête ou pas? Messieurs, Joss, est-ce que tu as une idée précise de ce que tu veux voir en attaque désormais?
Moi, j'ai une certaine tendresse pour l'inspecteur Béric. Donc, j'aimerais bien pouvoir le voir dans un système où il pourrait donner la plénitude de ce qu'il sait faire. Après, j'en suis revenu aussi, c'est-à-dire que c'est un garçon qui a des qualités, mais il a aussi plein de manques. J'aimerais bien le voir associé avec un autre attaquant, quelqu'un qui va plus vite. Donc, ça peut
Amouma.
Être Diony, ça peut être Abi. Ça peut être Amouma, effectivement, dans l'axe. Mais quelqu'un qui va pouvoir lui créer un peu des brèches.
Abi, laissez-le grandir.
Pouvoir créer du mouvement.
Oui.
Comment?
Je dis Abi, laissez-le grandir.
Oui, c'est vrai, mais c'est un bon joueur.
Pas au sens propre du terme, il est déjà très grand. Mais...
J'ai beaucoup vu dans l'équipe qui a gagné la Gambardella, c'est un bon joueur. Et il y a plein de bons jeunes
bon
à Saint-Etienne.
Oui.
Le dribbleur, la belle qui est.
Donc, attends, résumons-nous là. Donc, tu joues comment devant?
Je jouerai avec deux attaquants. Béric avec quelqu'un qui tourne autour, qui pourrait être un de ceux qu'on a cités.
D'accord. Donc, t'es pas arrêté sur un deuxième nom. Tu veux Béric chez le deuxième à voir, quoi.
Ouais, je pense que l'enclume doit être Deric et un attaquant rapide
Et le
à côté de lui
marteau,
et autour de lui.
à côté
moi
de
je
lui.
te donne.
Et aussi, parce qu'il faut se souvenir que Diony, bon, vous avez compris que je n'étais pas un grand fan de Diony, mais Diony, la belle saison qu'il fait à Dijon, il joue comment? Il joue
Il joue
avec
à deux.
l'enclume Tavares à côté de
Ouais.
lui. Et c'est pour ça que ça a marché. Et ce gars-là, il n'a jamais eu la chance de jouer dans ce système-là réellement à Saint-Étienne
Moi,
depuis qu'il est
je
là.
te donne
Jonathan,
une
ton
compo
attaque.
globale parce que c'est
Non,
lié avec la mieux.
on veut que ton attaque.
Bon, bah alors, non, mais si, c'est
Si, parce qu'on n'a pas le temps.
un milieu à 3, parce qu'il y a quand même Mvila, Kabaï et Youssouf, Boudbouz en 10, en 4-4 de losange, et devant, je suis d'accord, je rejoins Joss, Berich avec Romain Amouma. Pour moi, ça fonctionnerait bien, ça.
Pas de caserie. Très bien, c'est noté. Merci les gars, merci Joss. On te retrouve évidemment sur l'excellent site peuple-vert.fr avec tes chroniques régulières.
Avec plaisir, et je
Et.
souhaite un bon anniversaire à Sam Crow de ma bande de bohémiens de Twitter.
Très bien. Eh bien, écoute, on lui dit santé à Sam Crow.
Voilà.
Bon anniversaire, mon gars.
Merci Joss, merci Jonathan, et à la semaine
Salut les
prochaine pour
gars.
le prochain After,
Merci à vous deux. À
ciao,
bientôt.
ciao.
Podcast After Saint-Étienne.
RMC.
After Saint-Étienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.